Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Tu t'as dit apéro ?
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 39e Instant Sport du nom, le premier de l'année 2016 avec tous nos chroniqueurs présents ici pour vous souhaiter la bonne année. Alors lui, il a fait son retour sur le parquet, nous allons voir pour cette émission s'il en manque de rythme ou pas. Capitaine du BCM, Aurélien Lacasse, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonne année.
Bonne année, meilleurs voeux à tout le monde.
Eh bien, petite reprise, 9 points, ça n'a pas suffi, mais c'est un bon début, 9 points en 15 minutes quand même.
Ouais, voilà, j'ai enfin retrouvé les parquets, ça me démangeait un petit peu. Donc voilà, reprise sur le premier match de l'année, tranquillou, histoire de retrouver un peu le rythme et les copains.
Eh bien, c'est bien. Hein. Lui, il reste dans ses statistiques, par contre, avec un 0 plus 0, la tête à Crespon. Luc Crespon, journaliste à Midi, bonjour.
Bonjour à tout le monde, bonne année, merde.
Alors, Luc, en forme ? Ce match ?
En forme de quoi ? Il est difficile ce match, frustrant, très frustrant. Pas personnellement, pour l'équipe.
Bon, mais écoute,
on en reparlera tout à l'heure.
Voilà, ça viendra pour le prochain. Lui, il redémarre l'année, frais comme un gardon. Laurent Julien, bonjour, bonne année.
Bonjour tout le monde et bonne année, bonne santé à tous nos auditeurs et nos auditrices.
Alors toi, t'as la grande trêve hivernale de l'équipe 3 de l'ASL.
Voilà, donc nous, le championnat reprendra que début mars. Avec peut-être un tour de Coupe d'Alu mi-février, donc on a le temps de se préparer physiquement. Quoi.
Lui aussi est frais, dispo, il faut dire qu'hier, devant sa télé, le magnifique match Marseille-Guingamp, ils sont dormis à 21h05. Patrick Biancon, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous, et meilleurs voeux à tout le monde, et que 2016 apporte tout ce que vous souhaitez, et puis pour les sportifs aussi, beaucoup de victoires, parce qu'on sait que ça compte aussi.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'OM, là ?
Franchement... Je n'en sais rien. Là, je suis un peu, c'est vrai, désabusé après ce match d'hier soir et on ne sait plus trop quoi faire. Bon, j'ai changé d'entraîneur encore une fois, mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'était certainement un des plus mauvais matchs qu'on a vu depuis, je sais pas, peut-être 20 ou 25 ans. Il faudrait faire appel à nos souvenirs, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir Marseille jouer comme ça et un stade complètement vide où les gens sont désabusés à juste titre. Il faut le reconnaître.
Alors, c'est pas parce qu'on démarre 2016 qu'on oublie 2015. Laurent, deux petits messages à passer par rapport aux dernières émissions, peut-être ?
Voilà, alors la dernière émission, j'étais un petit peu fatigué, un petit peu dans le rouge. Je cherchais mon deuxième souffle.
Ah, moi, je suis ici dans la rouge.
Et tu y es déjà, toi.
Tu mets souvent le nez dans le rouge, d'ailleurs.
Et donc, j'ai été un petit peu maladroit. Donc, bon, j'ai voulu aujourd'hui m'en excuser. Je l'ai déjà fait par téléphone, donc auprès des dirigeants et joueurs de Remaze, puisque j'avais critiqué en faisant une boutade l'état du terrain où je disais que c'était un champ de patates. Bon, on n'a pas mangé de frites ce jour-là, mais malgré que j'ai fait des compliments sur l'accueil, le match qui s'est super bien déroulé, les dirigeants ont à juste titre mal pris le fait que je critique leur terrain puisque ce sont des bénévoles qui l'entretiennent. Donc je m'en suis excusé auprès du président qui a dû transmettre à ses collègues. Donc voilà, ça c'était la première boulette que j'ai fait ce jour-là. Et puis j'en ai fait une autre, donc c'était concernant la coupe Lozère, où j'ai dit que c'était une coupe Lozère au rabais, puisqu'il n'y avait plus le NL, Marvejol, il n'y a pas l'équipe première de l'AFL, donc il n'y a aucune équipe de ligue. Donc j'ai dit le mot rabais. Donc voilà, donc l'entraîneur de Badarou m'a gentiment apostrophé. Je passe un bonjour à Manu. Et le mot était peut-être un peu fort, c'est vrai, je m'en excuse. Toujours est-il que les clubs qui sont qualifiés méritent amplement leur place. Et je suis sûr qu'il y aura une très belle finale au chapitre au mois de mai prochain avec peut-être Badarou, je sais pas.
Badarou qui a battu Marangeux d'ailleurs.
Voilà, c'est pour ça.
Coupe aux Lausanne.
Et Michel Platini qui voudrait t'excuser aussi parce que t'as pas été super gentil, gentil avec la FIFA.
Excuse-moi, Michel.
Et oui, on peut plus dire n'importe quoi, attention, messieurs.
Non, c'est ça, tu vois, toute la difficulté du métier.
Je m'excuse d'avoir froissé le monde du sport football lausérien. Et puis je vais faire attention à ce que je dis maintenant.
Ils ont des frites à la buvette de Remays ou
non je...
Pour revenir à Remays, en étant plus sérieux, juste avant les fêtes, il y a un dirigeant emblématique du club qui est décédé, Monsieur Pépin, qui vraiment voilà faisait partie de ces bénévoles totalement désintéressés, qui à longueur d'année œuvre justement pour que les petits villages puissent vivre, qu'il y ait un dynamisme. Et donc voilà, c'est bien d'avoir une pensée aussi pour lui. Moi, je le connaissais un peu pour l'avoir côtoyé de temps en temps, et c'est vrai qu'il était vraiment hyper dévoué envers son club. Et donc je lui rends hommage ainsi qu'à tous ces bénévoles qui sont là tous les dimanches sur les terrains.
Tu as bien raison, Patrick. Beaucoup d'actualités pour cette reprise. On va commencer avec le handball et l'équipe 1 du MGC qui s'impose à domicile 37 à 20 contre Saint-Gilles. Pendant ce temps, Nîmes a perdu à Latte et Agde a gagné à Palaja. Donc le MGC reste 3e mais avec un match de moins. Nîmes 26 points, 2e Agde 26, Mende 25 et donc avec un match de moins. Laurent, t'es rendu au gymnase ou pas pour ce match?
Non, j'y étais pas. Donc bon, les échos, juste c'est qu'il y avait comme souvent pas de... ou une très faible opposition adverse. Et donc, victoire aisée des Mandois qui continuent leur petit chemin vers le haut du classement. Donc, il y a encore ce match en retard à Ramon, voilà. Et donc, ça mettra un peu le calendrier à jour en espérant qu'il y aura une victoire ce jour-là.
Ouais, 14 points d'avance, 14 buts d'avance à la mi-temps, c'était quasiment plié. Ils n'ont pas eu à forcer trop leur talent en seconde période. Pour gérer leur avantage, ils finissent avec 17 buts d'avance. Bon, je pense qu'ils n'ont pas véritablement tremblé sur ce coup-là. Même s'ils ont eu un petit peu de mal à se mettre dans le rythme au début du match, visiblement.
23-9, Marty qui est bien de retour avec ses 8 buts.
Il n'y a pas eu de match.
Il n'y a pas eu de match.
Les faux essentiels de ce week-end, c'est la défaite, tu l'as dit, des cheminots nîmois. Et donc, ce qui fait que si... Mende gagne ce match en retard contre Aramon qui est mal classé, puisque je crois qu'ils sont même derniers. Donc là, tu passes premier tout seul, et donc tu vois la bonne opération que tu peux faire en gagnant ce match en retard. Et donc c'est vrai, d'une situation au début de championnat où avec cette lourde défaite contre Agde et puis Nîmes qui caracolait en tête, ben tu te disais ça allait être compliqué. Puis finalement Agde a laissé des plumes. Maintenant c'est les cheminots qui en laissent aussi. Puis, d'ailleurs ils ont perdu aussi à Mende le match aller. Donc voilà, donc tu peux te retrouver en gagnant ce match en retard tout seul premier. Et donc la voie vers la N3 se dégage, même si bien sûr on est encore loin du but.
Ramon qui a gagné ce week-end.
Et finalement Nîmes, ça fait deux défaites successives vu que c'était le dernier match qu'ils avaient perdu contre le MGC.
Exactement.
Donc mauvaise période, il va falloir faire attention à Agde, surtout par rapport au Golavérage particulier
dont
tu venais de parler. Les filles n'ont pas joué, Laurent?
Non, au repos. Le week-end prochain, elles iront jouer au MUC, le fameux MUC.
Le MUC 1,
2 ou 2, on ne sait pas trop.
C'est le MUC 1 qui est en fait le MUC 2 puisque leur équipe 1 joue en national.
Ah oui, c'est vrai.
Mais qui est peut-être sur le MUC 3, on ne sait pas trop.
Oui, parce que ce week-end, c'était la Coupe de France pour les filles, il me semble. Coupe de France, en tout cas, en Nord-Lozère, pour le handball Nord-Lozère.
Le championnat.
C'est le volley qui était en Coupe de France, pardon. Pour le handball Nord-Lozère, Laurent, tu as des résultats?
Alors, les garçons ont perdu. Alors, j'ai plus les scores en tête. Les garçons ont perdu.
25-23.
25-23, d'accord. Et par contre, victoire des filles donc contre l'équipe co-leader 30-20, donc ce qui conforte leur place. Et donc les joueuses du Nord-Lozère de Flo Baudin sont elles aussi sur la voie royale, comme les garçons du MGC, pour accéder à la division supérieure.
Et voilà, c'est là la Coupe de France, c'est le week-end prochain pour les filles qui rejouent contre cette équipe de Murat à 20h30, toujours à Saint-Chély avec en levée de rideau les moins de 18 qui reçoivent Brioude, les moins de 18 qui ont perdu à Issoire ce week-end 28-14. La Coupe de France en volée, j'en parlais, un tirage extrêmement compliqué pour les filles d'Amal Baïch, Patrick, avec deux clubs de Liga féminine qui ont des centres de formation évoluant en N2, Béziers et Istres, donc deux défaites, 25-12 face à Istres et 25-7 45-16 contre Béziers, élimination également des M17 et des M13. L'essentiel, c'était quand même c'était une fête pour ces filles de jouer contre des équipes aussi fortes.
Exactement, c'est un prestige, c'était des matchs de prestige contre des clubs voilà, qui sont vraiment des places fortes du volleyball féminin. Donc bon, les scores sont sévères, mais bon, on s'y attendait. Bon, c'est quand même bien pour ces filles de jouer des matchs de ce niveau-là. C'est quand même un moment important dans une saison de se confronter au plus haut niveau de son sport.
Aurélien, il n'y a pas de Coupe de France en basket pour vous au niveau régional ?
Non, il n'y a pas de Coupe de France, non. Pas au niveau régional. On pourrait s'affilier à la Coupe du Gard ou la Coupe de l'Hérault, qui sont des coupes départementales, mais on ne le fait pas, on multiplie pas les déplacements.
Ok, les garçons volaient, jouaient pas
non,
ce week-end.
Il y avait pas de match, il y avait la réserve qui jouait, et la réserve s'est inclinée, je crois, à 7. 3-7 à 1, enfin, moi, c'est sûr qu'ils ont perdu, mais la première ne jouait pas, et avec la réserve.
Ils jouent samedi prochain, le week-end prochain.
Oui, je crois.
C'est pas le dernier match de la première phase.
Je peux pas te dire.
C'est le dernier.
On va se renseigner, on reviendra dessus.
Il y avait des matchs en retard, pas dans la poule de Mende, mais dans la poule qui nous intéresse, dans cette fameuse poule dans le sud-est.
Les gars, ils sont pas super bien,
on
Monaco.
On va croiser, et donc Monaco a gagné ce match en retard. Monaco, il y a trois équipes à égalité, donc a priori Monaco sera dans les quatre, et donc, je pense qu'on peut se préparer à Monaco.
Parce qu'ils n'étaient pas super bien ces derniers temps, Monaco. Voilà.
Ils ont gagné à l'extérieur ce dimanche, donc ça les remet en position de se qualifier. Par contre, la réserve de Nice, où joue le frère donc Kevin, le frère d'Anthony, eux, ils sont cinquième. Il y a un petit écart à quatrième. C'est pas sûr qu'on ait cette confrontation entre les deux frères en play-off.
Alors, ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que le MVL reste pour l'instant de très très bonnes dispositions pour cette deuxième phase. Puisque pour l'instant, Puguzon n'est pas qualifié. Ouais. Mais il va falloir les recevoir.
Ouais. Ça, hein. Mais en plus, surtout que dans l'autre poule, c'est beaucoup plus serré. Puisque Monaco et les autres clubs ont deux ou trois défaites. Donc ils ont perdu des points les uns par rapport aux autres. Donc je pense que Mende peut attaquer la deuxième phase avec un matelas de points supérieur aux autres équipes.
Alors j'ai découvert que Monaco avec une équipe de basket.
Oui, avec,
avec un mécène ukrainien.
Avec un mécène ukrainien, ouais, tout à fait.
Donc qui est
une grosse équipe, voilà, qui a monté une grosse
qui
équipe.
Qui finance 100% du budget. Et donc voilà,
ils jouent en quelle division ?
Ils sont en Pro A depuis cette année.
Ils sont en Pro A, ils sont même dans les premiers du championnat. Ils sont deuxième, je crois.
Deuxième ou troisième.
Deuxième, ils font une grosse voilà. saison.
Ce qui n'est par exemple pas le cas du double champion de titre Limoges CSP, hein, qui vient de se séparer de son coach après s'être séparé de son meilleur joueur. Enfin, soi-disant.
Il est parti où ce meilleur joueur là ? Comment il s'appelle déjà ?
Pas
Mombert, mais c'est en Hertz, je crois.
Ah non, Moerman, il est parti la saison dernière, à la fin de la saison, il est parti en Espagne, jouer en Espagne.
Ah, il joue en Espagne.
D'accord. Mais ils avaient recruté le meilleur scoreur là, de l'Eurocoupe, un meneur américain qui était censé être pour être un petit peu le sauveur. Et au final, c'était tellement individualiste que ils se fondaient pas du tout dans le collectif. Le coach l'a pas fait jouer. Enfin bref, c'est très compliqué. Ouais. Alors là, le double champion est quand même pas très très bien.
Et Monaco est monté et bim, ils ont acheté. Ouais.
Monaco était
En N2, je crois. Hein. N2, je crois.
En fait, il a une histoire vraiment spéciale, cet Ukrainien. Donc il était banquier et donc il y a eu une énorme embrouille dans une banque ukrainienne qui a abouti à une liquidation avec des dizaines de millions d'euros qui on ne sait pas trop où ils sont passés. Et donc après il y a eu règlement de compte comme ça se fait là-bas. Donc il a échappé par miracle à une tentative d'assassinat. Heureusement qu'il avait une voiture blindée qu'il a bien protégée. Et donc suite à ça il s'est réfugié à Monaco, mais bon il s'est réfugié avec son compte en banque. Et donc il a une surface financière énorme et donc ça lui a permis de créer de reprendre ce club de Monaco et de franchir les échelons et de comme Aurélien vient de le dire, de créer une équipe en Pro A de très grande valeur avec des joueurs très connus, aussi bien français qu'américains.
Oui, ils ont une belle équipe.
Vous vous rendez compte qu'on est parti du volleyball à Mende pour finir au basket en Ukraine.
Aux histoires de corruption.
On en est où, là?
Ouais, c'est ça. On salue notre chroniqueuse de la lorgnette, Valérie, qui nous envoie un message et qui dit qu'elle ne s'excusera pas pour avoir donné son point de vue sur un livre de nul qu'elle est en train de lire en ce moment dans l'émission de ce vendredi prochain.
Mais de toute façon, elle ne dira pas que le livre est nul parce que ne sait pas dire que les livres sont nuls.
Oui, c'est vrai. On l'écoutera l'émission de vendredi pour voir si
on verra.
Elle a plus de poigne en cette année 2016.
Moi, j'ai jamais dit que le terrain était nul à Rimeis, hein, monsieur.
Non.
T'as dit que c'était un champ de patates. C'est quand même pas totalement un compliment, quand même.
Ouais, on salue Nicolas Turrière, notre ami et président de Remaze.
Je pense qu'on devrait faire un apéro jeudi soir avec tous les chroniqueurs et chroniqueuses de la lorgnette pour voir dans quel état ils sont le lendemain.
Ouais, exactement. Mais ils font toujours des apéros la veille, ouais. Dans tous les cas. T'es en parlant de champ de patates, hier le RCML jouait à Vinassant au Stade de la Prairie. C'est un bon nom de stade, ça, le Stade de la Prairie. On pourrait donner des idées à nos auditeurs. Défaite 25-9, 12-6 à la mi-temps pour Vinassant. 3 essais de transformation et 2 pénalités pour le RCML. 3 pénalités, 2e, 31e, 46e, des pénalités de Vessade. Au classement, eh bien, Mende s'enfonce un peu à la 5e place avec 22 points. Sachant que Nissan Colombier premier à 28 points et que le dernier à 11, donc ils sont vraiment bien au milieu du classement. Tu as rencontré le coach juste avant ce match, toi, Laurent?
Oui, on s'est croisé à Mende et donc il avait espoir de enfin gagner faire une première victoire à l'extérieur puisqu'ils n'ont jamais gagné à l'extérieur et puis finalement, ben non. Non, c'est. Et loin de là d'ailleurs, puisqu'il y a un très gros écart. Et je crois qu'il va falloir qu'ils se reprennent un petit peu, qu'ils fassent faire un petit peu de muscu à ces joueurs. Et non, il va bien trouver les clés de la réussite pour cette deuxième partie de saison. On croit toujours en lui.
La semaine prochaine, Laurent s'excusera parce qu'il aura subi des menaces des joueurs du RCML.
Ils vont pas être contents. Hein.
Tu crois, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils fassent de la muscu.
Il va faire la muscu avec ta tête.
Non, mais c'est vrai que ne pas s'imposer à l'extérieur, ben forcément, ça plombe un peu le bilan chiffré du RCML. Et donc, comme tu le disais, maintenant, il est bien calé en milieu de tableau. C'est quand même un peu décevant. Et je pense que le coach doit être déçu parce qu'en principe, au moins, il ramenait le point de bonus. Mais là, cette fois, non seulement il ne le ramène pas, mais l'équipe adverse marque le bonus offensif. Donc, ben là, c'est une défaite de tous les côtés. Donc une mauvaise reprise en 2016 et c'est sûr que si le RCML n'arrive pas à s'imposer à l'extérieur, ça va être compliqué pour vraiment avoir une saison exceptionnelle comme on pense qu'ils en ont le potentiel.
Après ils sont pas complètement largués au classement non plus, ils ont 6 points de retard sur le leader. On sait qu'avec le jeu des bonus, ça peut aller assez vite.
Ouais, c'est vrai, moi je pensais qu'ils allaient faire mieux sur ce match, effectivement, parce que le match aller contre eux, ils avaient gagné 30-7, il me semble. Donc ils avaient premier match de la saison, hein, donc ça fausse peut-être un peu les pistes, mais je pensais qu'il y avait moyen de glaner cette première victoire à l'extérieur. Donc mais j'espère qu'ils vont se reprendre. Normalement le week-end prochain ils jouent contre Montréal, je crois, à domicile. Donc ça pourrait permettre de bien lancer la saison à ce niveau-là.
Ouais, c'est un peu décevant quand même, hein, cette saison. On attendait peut-être à tort, hein, Patrick.
Ouais, non, mais bon, c'est vrai qu'au rugby, bon, il y a un système aussi qui est assez complexe. Après, il y a des playoffs qui se jouent en fin de saison. Mais bon, c'est vrai qu'au plus tu termines haut, au plus tu as quand même des adversaires qui seront plus à ta portée. Puis, voilà, tu peux recevoir aussi au début, hein, même si après c'est sur terrain neutre. Bon, non, mais c'est vrai que c'est un peu décevant, c'est surtout ces résultats à l'extérieur. Parce que, bon, en première partie de championnat, on sentait que cette victoire était là, puisqu'il y a eu des défaites de 1 point, 2 points. Donc on attendait en 2016 vraiment de basculer sur une victoire à l'extérieur. Et puis non seulement c'est pas le cas, mais en plus c'est une défaite assez sévère.
Ouais, surtout que Vinassant, c'est une équipe qui est vraiment proche de haut classement. C'est bien vraiment sûr, une concurrente.
Un adversaire à la portée,
ouais,
bien sûr.
Tout à fait, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment dommage.
Ouais, c'est vrai qu'on avait de gros espoirs après leur bon début de saison. Ils avaient aligné quelques belles perfs. Après, dans le rugby, c'est peut-être l'un des sports où il y a une vraie différence qui est vraiment très marquée entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. C'est peut-être là où il y a l'importance du terrain joue peut-être plus que dans d'autres sports.
Cela dit, moi je tiens à nuancer aussi que Vinassant est quand même second au classement. Aller perdre chez le second, c'est pas honteux non plus.
Ah oui, c'est le second parce qu'ils ont gagné, mais oui. si c'est toi qui avais gagné, c'est toi qui seras second.
Ah d'accord. Bon, allez, laisse tomber.
La semaine prochaine, Laurent s'excusera auprès des joueurs de Vinassant.
Auprès des mathématiciens de ne pas savoir calculer le nombre de points. Allez, un peu de sérieux, on va parler basket maintenant. Le BCM s'incline à Moguio 58-48 avec un bon troisième carton, mais le mal était fait à la mi-temps avec un moins 17, 32-15. Capitaine, c'est dommage, vous n'étiez pas loin.
On n'était pas loin à la fin du match, ouais, effectivement, on n'était pas loin. C'est notre entame catastrophique de match qui pèse lourd dans la balance à la fin, puisque on se prend un 18-7 dans le premier quart-temps et on arrive à la mi-temps avec 17 points de retard. Donc on a entamé le match vraiment sans aucune envie, sans aucune agressivité, avec les jambes lourdes, donc pas de repli défensif. Enfin, c'était un petit peu la cata, tout ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, à partir du moment où on a changé de défense, où on a mis un peu plus d'intensité en défense, on a pu recoller au score pour revenir même à 4 points de nos adversaires à 3 minutes de la fin. Mais après c'est une grosse débauche d'énergie qu'on a payé en fin de match au niveau physique, et on a un petit peu craqué sur la fin, donc de gros regrets sur cette première mi-temps.
Non mais c'est Caluc qui a pris sa technique, non?
Pas pris de technique.
Non, parce que c'est ça qui fait basculer un peu les matchs aussi, quoi.
Quand vous revenez,
boum, il dit non mais on revient trop vite là, donc boum. Bah je suis passé une petite technique pour remettre à l'adversaire.
On a même eu une anti-sportive en notre faveur.
Comment était le pivot adverse cette fois-ci?
Musculeux. Non, ils étaient pas excessivement grands et costauds. Peut-être probablement beaucoup plus en vie que nous en début de match, en tout cas, ça c'est sûr.
C'est qui Charles Donatien? C'est un nouveau?
Oui, c'est un nouveau Thibaut.
11 points, c'est bien.
Ouais. Sorti du banc, Thibaut, un gros match. Bah, c'est lui qui récupère d'ailleurs la faute antisportive, qui a fait beaucoup, beaucoup de bien, notamment en défense au rebond. Mais c'est vrai que, alors il le dit pas, mais comme il était coach, c'est quand même lui qui a décidé, Aurélien, de changer de défense.
Oui, parce que t'es capitaine, t'es coach, t'es joueur, t'as tout fait là.
Mais cette fois-ci, j'étais coach aussi, puis comme moi c'était mon match de reprise, je jouais pas beaucoup, donc.
C'est censé pas jouer beaucoup.
j'ai joué un quart d'heure du coup.
Ouais, en fait, j'ai quand même le deuxième meilleur marqueur de l'équipe.
L'autre intérieur titulaire avait un petit peu de mal, vu le rythme du match, il a quand même été, physiquement, il a eu un peu de mal à suivre. Ouais, c'était moi. Donc non, mais c'est vrai que ce changement de défense, ça fait vachement beaucoup de bien. Il y a eu un gros boulot du joueur qui était censé défendre devant sur le meneur de joueur, que ce soit Adrien Souberan, Clément Monino ou Axel Souberan, les deux frangins, et qui ont fait du gros boulot. Et derrière, on a tenu, on a fait un super troisième quart-temps parce qu'on gagne 10-19. Ouais. Après voilà, on revient à 4 points. On n'est pas loin de pouvoir recoller à 2 points. Et puis voilà, on prend deux paniers à 3 points là, qui nous tuent un peu et qui leur redonnent 10 points d'écart. Donc voilà, sur un match serré comme ça, 10 points d'écart, c'est quand même beaucoup.
Ouais. Calcul mental, Laurent, 9 points en 15 minutes, à raison de 2 points par panier, ça fait combien de paniers en 15 minutes? Très bien. Merci.
Salut.
Allez, salut.
Je pose après la pause.
En plus, il te pose une colle, parce que c'est 9 points, c'est un chiffre impair.
Ça a marqué un 3 points.
Non, j'ai marqué 3 points.
Un penalty.
Un 3 points.
Un 3 points.
Assez exceptionnel, hein.
Sur la colère.
Sur la colère, effectivement. Ah ouais.
Ouais, c'est bien.
Donc, il a marqué 3 paniers.
Ouais. Non, parce qu'il a mis des.
T'as mis des lancers francs, non?
Non, j'ai pas mis de lancers francs.
Il marque pas de lancers francs.
Donc, il a marqué 3 paniers.
On le sait. Alors,
5. 4.
4.
Bon, on
3-2 et 3.
Un bon résultat encore pour vous avec nos amis de Mons qui perdent 90-45 à Fabregue. Alors, ils sont énormes, hein. 90-45, on croirait le
décès. C'était la moitié, c'est bon.
On rappellera pas notre score contre Fabregue.
Oui, mais bon, on peut rappeler votre score contre Mons parce qu'alors, voilà, la seule victoire de la saison, vous étiez pas là.
Bah non, on fêtait ça.
Bravo.
Et puis, vous n'avez pas parlé beaucoup, hein.
Mais on n'avait pas nos spécialistes basket.
On était déception, on s'attendait une émission spéciale, des trucs, là.
Un flash info.
On attendait le champagne, nous aussi.
On attendait le champagne.
Ouais. On en avait beaucoup,
mais on l'a bu.
On va prendre 5 minutes et on va revenir sur cette belle victoire à Mons. Capitaine, tu y étais
Non, j'avais pas encore repris, non.
Mais tu étais sur le bord, même pas?
Non plus.
Luc.
Je l'ai vu en vidéo.
Et ouais, ouais. Et en plus, Luc, t'as marqué, toi.
J'ai marqué, j'ai ouvert le score.
Alors, ça, on l'a dit, par contre.
Ça, on l'a dit.
4 points.
Le premier panier du match, il a marqué.
On dit pas. Alors, sur ce match, comment ça s'est passé, Luc?
Bah bien, on a gagné.
Oui, mais voilà. Dis-moi en plus.
C'était un match compliqué parce que on a super bien attaqué le match. On a eu plutôt pas mal. On a eu beaucoup de réussite au shoot, enfin notamment au shoot de loin avec Filippo Toratello qui met 4 paniers à 3 points, je crois, 4 ou 5. Qui met 20 points dans le match, donc ce qui est quand même pas mal. On est largement devant, on doit même être encore plus devant, on doit avoir une vingtaine de points d'avance, mais bon, on se fait un peu grignoter notre avance. Un peu plus de mal en troisième mi-temps, en troisième quart-temps pour maintenir cette avance. Et puis tout se joue dans les dernières secondes finalement. Tout se joue dans les dernières secondes puisque on n'a que 4 points d'avance et à 3 secondes de la fin
il ne rame pas Laurent
à 3 secondes de la fin il y a à tout sport qui a l'occasion de marquer un shoot à 3 points alors qu'il est complètement raté mais on fait faute sur le shooter donc du coup ça lui donne 3 lancers francs à tirer et il rate les 3 donc du coup voilà on reste avec nos 4 points d'avance et la victoire la première de la saison.
C'est beau ça.
Et vous avez fait le tour d'honneur, comment vous avez fait?
Non, on n'était pas à domicile.
Il y avait du monde à Mons?
Personne.
Il y a pas de témoin en fait. Il y avait... Est-ce qu'on est vraiment sûr?
Si on a une vidéo, vidéo. Ouais. Ouais. Alors il y a pas de témoin,
il y a une feuille de match, il y a
l'ordinateur qui est tombé en panne, ce qui fait qu'ils ont dû faire la feuille à la main, enfin bref.
Patrick et Laurent, je veux qu'on soit tous les trois au match retour contre Mons, je veux qu'on soit en force pour venir voir jouer nos basketteurs.
Ah oui, il nous faudra des supporters là. Hein.
Ouais, c'est important. C'est combien la victoire? Parce que Mons c'est 2 points. Oulala, Mons est dernière avec 10 points et vous êtes avant-dernière avec 12 points, il y a match de plus.
Oui, mais c'est 2 points la victoire, 1 point la défaite. Mais de toute façon, on sera devant eux même s'ils gagnent leur match en retard.
Ah oui, parce que
c'est le goal à barrage particulier.
Ouais. Ah ouais, donc d'où l'importance du match retour.
Exactement.
Ouais. La date? Non, c'est
absolument
pas.
C'est en avril.
C'est en avril. Parfait.
Ouais. Non, ce qui est ralent, c'est que si on s'était imposé contre
Mugyo,
on aurait pu revenir se rapprocher d'eux.
Et passer devant Mugyo.
Non, pas passer devant Mugyo.
Si ils ont 13 points, vous en avez 12.
Ouais, mais c'est. Alors oui, en fait,
ils ont un match de moins.
On aurait été à égalité avec eux.
On aurait été à égalité, je pense.
Ah ouais. Oui,
mais ils auraient été devant puisque vous les avez battus.
Ouais, mais ouais. Ils ont un match de moins, Mugyo, je pense. Hein.
Mmh. Oui, c'est pas grave. S'ils jouent contre un des premiers, ils vont perdre. Donc de toute façon, ça change rien. Ouais. La Coupe de France, on en parlait de handball, c'est dans 15 jours. Hein, c'est contre la.
L'ENL.
Handball
Nord-Lozère.
Handball Nord-Lozère, c'est contre la Ricard Marie, banlieue de Saint-Etienne, première de leur championnat. C'est à Saint-Alban. Okay. Le week-end prochain, c'est la Ricard Coupe Marie. Du Cantal. Voilà, on remercie Florent Baudin de nous avoir apporté cette précision.
Et la semaine prochaine, Laurent s'excusera auprès des. Du handball dans Lozère.
Et pour en finir avec le basket, on joue ce week-end à domicile, cette fois-ci, contre l'UNEL. Donc vous pouvez aussi venir samedi à 19h.
C'est à 19h, donc c'est pas trop tard. Vous pourrez faire l'apéro après.
Venez avec vos chaises.
Venez avec vos chaises et vos amis.
Allez, on passe au football avec une nouveauté, le jingle AFL.
Amour, gloire et beauté.
Allez, le jingle FL, amour, gloire et beauté, c'est un peu pour Laurent qui joue surtout pour la beauté, l'amour, pas trop pour la gloire. Je me moque, mais des nouvelles péripéties à la FL après Daniel Bréard. Christian Mattiello quitte le club pour rejoindre le centre de formation du Nîmes Olympique. Alors je me moque, mais bon, il y a des opportunités que l'on peut quand même pas refuser, Luc.
Oui, c'est sûr que pour le coach de l'AFL, l'ex-coach de l'AFL, c'était compliqué. C'était un contrat, je crois qu'on lui a offert un contrat de 3 ans au sein d'une structure professionnelle, avec, j'imagine, le salaire qui va avec. Et pour l'AFL, je pense que c'est difficile d'essayer de s'aligner. Ce qui est dommage, c'est que ça intervient donc la veille de Noël, le 24 décembre.
Et que ça intervient après un premier coach qui est déjà parti avant.
Après un premier coach qui est...
Le 21, il a averti le lundi soir. Il rejoint Nîmes, donc ça s'est fait, ça a été officialisé le 24, mais les dirigeants le savaient depuis le 21.
Ça s'est fait assez rapidement parce que Nîmes Olympique, en fait, devait trouver un responsable pour son centre de formation avant le 31 décembre. Donc il fallait trouver, ils avaient je crois une quinzaine de jours pour trouver quelqu'un.
Oui, il fallait avant le 31 décembre, tu as entièrement raison.
C'est pour ça que ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, il a fallu trouver un remplaçant à Christian Mattiello.
Ça fait beaucoup, Patrick.
Ouais, ça fait beaucoup et bon, c'est vraiment révélateur maintenant. Alors, on parle du football amateur, mais on se rend compte quand même pour certaines personnes, c'est de moins en moins amateur. Et donc, même que tu es dans un club amateur, toi, tu es un professionnel du football et donc tu réponds à l'offre la plus eh bien la plus belle qui te parvient, peu importe à quel moment cette offre te parvient, et sans te soucier de l'avenir du club qui, à un moment donné, quand même, t'a tendu la main et t'a sorti d'une situation où tu étais au chômage. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors bon, moi, c'est sûr, hein, c'est facile pour nous de parler. On n'est pas dans la situation de Massilo ni de Bréard. Mais bon, il faut aussi se mettre à la place de tous ces bénévoles qui, comme je le disais tout à l'heure, eux font ça, ils œuvrent pour faire vivre un club, une ville, un département, une région, etc. Et puis bon, à côté, il y a des gens qui, eux, ils sont là pour se développer, surtout eux-mêmes. Et donc c'est ça qui est quand même un peu gênant, et même s'il y a des offres qui sont difficiles à refuser, c'est sûr que ils se posent pas de questions, et tu es promis au classement, ils s'en vont, tu n'as pas commencé le premier match, Briard il part en Afrique. Moi, tout ça quand même, ça m'interpelle fortement, ça me déplaît aussi, je dis. Franchement, je trouve pas que c'est très glorieux de la part de ces gens-là d'avoir de tels comportements. Parce que quand tu es dans le besoin, tu es bien content de venir à Mende, et puis après, parce qu'on te propose mieux, tu pars de Mende, et puis après Mende, c'est le cas de tes soucis. C'est quand même un peu bizarre.
Mais ce qui se passe là au niveau des entraîneurs se produit déjà au niveau des joueurs depuis assez longtemps, parce que même si nous ici en Lozère c'est moins fréquent, mais quand tu descends en bas, il est pas rare que des joueurs en cours de saison ou d'une saison à l'autre partent pour aller alors c'est sûr que quand tu joues au Gros du Roi, à la Grande Motte ou à Montpellier Petit Bar, t'as l'opportunité d'aller jouer à Moggio, à Carnon,
à Dibourg, à Agde, à Souvenborne.
Maintenant, ça se fait au niveau des coachs aussi, ce qui était un peu plus rare. C'est vrai que c'est regrettable pour beaucoup de choses. Déjà pour le groupe, effectivement, qui était depuis le début de la saison là, depuis septembre avec ce nouveau coach. Il faut s'habituer, il faut un nouveau coach qui reprend les rênes pendant les fêtes, avec un gros match à préparer, on va en reparler, mais un match contre Bagnolpont qui était dauphin de l'AFL. Sans non plus aucune garantie qu'à la fin de la saison ou dans 6 mois.
C'est ce que dit Patrick, une fois que c'est parti, il ne se soucie plus.
Exactement. Non, mais heureusement que tu as des joueurs qui sont solides, qui. Parce que c'est complètement hallucinant. Tu connais 3 entraîneurs dans la même saison. Comme tu l'as dit, tu as un match énorme à jouer contre Bagnolpont qui est troisième avant ce match-là. Tu les reçois, tu arrives quand même à t'imposer avec un entraîneur qui a fait quoi? Même pas 4-5 entraînements.
Puisqu'il
a commencé le 29 décembre. Son premier entraînement, c'était le 29 décembre.
Il a fait le 29 et il y avait quasiment pas la moitié de l'équipe. Il a manqué beaucoup.
Exactement. Il a fait
son premier véritable entraînement, on va dire, lundi dernier.
Il suffit que tu regardes un peu sur les réseaux sociaux, là, aussi bien les Facebook des joueurs ou les comptes Twitter des joueurs, mais tu as vu quand même une certaine désordre pendant les fêtes. C'est logique que certains joueurs qui se demandaient, qui se sont certains, Bréard, Simi et tout. Non, mais bon, et malgré ça, tu gagnes, tu arrives à gagner dimanche, et tu en parleras, mais les autres résultats sont favorables pour l'AFL. Donc tu creuses même encore un peu l'écart par rapport aux équipes qui vont lutter avec toi pour cette accession. Bon, mais c'est vrai que le football amateur maintenant, il n'a vraiment plus qu'amateur, c'est plus que le nom. C'est plus que les dirigeants qui sont amateurs. Hein. Ouais. Sinon, ouais. Après, le reste... Bon.
Sur ces équipes qui suivent, d'ailleurs, j'avais raison par rapport à la dernière émission, mais on va y revenir.
Oh, oui, tu avais raison, c'est vrai.
Oui, du coup, malgré toutes ces péripéties, je voulais quand même tenir à féliciter et à tirer mon chapeau aux dirigeants, aux têtes pensantes de l'avenir Foot Lozère, qui ont eu quand même une mauvaise surprise pour les fêtes, et qui ont sacrifié quelques journées pour trouver un coach digne de ce nom, un gars qui a de l'expérience à ce niveau-là, une très bonne expérience dans le football. Donc je voulais quand même que les dirigeants de l'AFL, le bureau notamment, le président et vice-président, etc., soient quand même mentionnés dans cette émission, quoi.
Sur le coach, Luc.
Oui, il faut...
et Patrick, on va en parler de ce coach un peu aussi.
Donc, Johan Febrère, qui connaît bien la DH et le championnat Languedoc-Roussillon, puisqu'il a été pendant une dizaine d'années coach de Latte. Il était ensuite parti à la réserve d'Arles-Avignon, qu'il a fait monter en CFA2 et qu'il a maintenu en CFA2 pendant 2 saisons. Il a même été plusieurs fois pressenti pour être adjoint de l'équipe professionnelle.
Ben, notamment cette année. Hein.
Notamment cette année, l'année d'avant aussi, je crois, quand le club était encore en Ligue 2. Bon, ça s'est pas fait pour diverses raisons. J'ai l'impression quand même que les arcanes du club d'Arles-Avignon,
c'est compliqué.
C'est quand même compliqué. Donc, il était libre en fin de saison déjà, fin de saison dernière. Il avait été. Alors, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est Robert Nouzaré qui est un proche de Louis Nicolin. On sait que les relations entre l'AFL et le président de Montpellier sont assez fortes. Donc Robert Nouzaré avait glissé le nom de Johan Fébrère au dirigeant de l'AFL. Donc il avait déjà été contacté, il avait déjà postulé au mois de juin. Ça s'était pas fait, donc on connaît l'histoire. Et là, à nouveau, bon, ils ont à nouveau sollicité Johan Fébrère, qui était effectivement libre. Et donc qui a accepté de rejoindre l'effectif. Il arrive donc responsable de l'équipe première du groupe réserve et des U19, hein, chargé de superviser un peu tout ce monde-là. Je sais qu'il est arrivé avec une connaissance du club puisqu'on lui a montré, il a vu tous les matchs que Coco Boyer filme, donc tous les matchs de l'équipe à domicile. Il les a vus en vidéo avant de venir. Le but pour tout le monde, c'est qu'il reste, il s'inscrive dans la durée. A priori, lui a envie de s'inscrire dans la durée, les dirigeants aussi. Maintenant, on verra d'ici la fin de saison ce qui se passe. On peut rien prévoir, voilà. Encore faut-il, voilà, puisque bon, c'est vrai qu'il est pour l'instant encore dans une période un petit peu de, on va dire, d'essai et de comment on appelle ça?
De connaître, voilà, il ne faut pas se connaître, il faut que le joueur apprenne à le connaître, et inversement.
Alors je crois qu'il y a quelques joueurs qui le connaissaient déjà.
Et il a joué contre Mande, bon, avec l'AT et Mande se sont affrontés à plusieurs reprises, donc c'est vrai qu'il connaît le stade du chapitre,
ouais, il connaît ses installations, ça c'est clair. Donc, faut aussi que ça fonctionne entre tout le monde, mais a priori les deux parties espèrent pouvoir continuer l'aventure.
Tu le connaissais toi Patrick?
Non, il a un parcours, j'en avais entendu parler, je ne le connais pas personnellement, mais bon, il a un parcours totalement étonnant. On parlait justement maintenant de ces entraîneurs qui changent de club à tout bout de champ. Mais lui, c'est un peu le contre-exemple puisqu'il est resté quand même 18 ans à Lattes. Donc aussi bien en tant que joueur et entraîneur. Et donc dans ces 18 ans, il a été 11 saisons consécutives entraîneur de l'équipe première. Bon, c'est une forme de record certainement dans le football du Languedoc-Roussillon. Il a commencé très tôt à entraîner puisque à 27 ans on lui a dit tu vas entraîner l'équipe senior. À cette époque-là, Lap était en PHOA, donc il a fait gravir les échelons jusqu'à la DH. Il a maintenu 7 années d'affilée Lap en DH. Bon, on sait très bien que Lap n'a pas un des plus gros budgets de la DH, il ne l'a jamais eu. Donc c'est quand même à mettre tout à son crédit.
Mais il a une très bonne formation.
Voilà, et donc il a jamais terminé pendant cette saison au-delà de la 6e place. Donc il a toujours été dans le premier tiers du classement. Donc ses résultats plaident pour
première
lui.
Première moitié, bon, Patrick.
Oui,
on parlait de match.
Oui, oui. Ben, il y a 14 équipes, donc oui. Donc voilà, mais après, il a eu cette opportunité de rejoindre Arles-Avignon pour justement voir le niveau supérieur. Arles-Avignon, c'est un club quand même que je connais assez bien. Oui, quand j'ai su qu'il signait, j'ai appelé 2-3 personnes qui étaient aussi dans le club d'Arles-Avignon. Et bon, voilà, on m'a décrit quelqu'un vraiment de passionné, de compétent. Donc c'était pas facile parce que en plus bon les professionnels étaient à Avignon, les amateurs étaient du côté d'Arles. Bon, c'était vraiment deux équipes différentes dans le même club. Donc il fallait qu'ils récupèrent des joueurs pros pour les faire jouer en CFA2. Bon, la plupart du temps ils connaissaient même pas les gars qui s'entraînaient à Arles, donc ils n'avaient pas envie aussi de jouer en CFA2. Donc il a vécu cette situation compliquée, il s'en est bien sorti. Il aurait dû être cet adjoint du coach un senior. Plusieurs fois ça a tourné, il aurait pu être celui de Loré, il aurait pu être celui de ben, qu'ils ont eu de Zvenka, et bon, même en fin de saison dernière, en national, il espérait être un entraîneur adjoint. Bon, les dirigeants, Salerno lui avait dit que ça serait pas lui, son contrat se terminait, c'est pour ça qu'il a pas été prolongé. Et puis après, de toute façon, le club d'Arles-Avignon a été pris dans la tourmente du redressement judiciaire, et maintenant, il y a la CFA et la CFA 2 a fait forfait. Donc ouais. Maintenant, Arles-Avignon, c'est quoi? C'est l'équipe 3 qui joue en DH. Donc, t'imagines ce que ce club est devenu en quelques semaines.
J'ai l'impression qu'il a été un peu la victime collatérale des soucis qu'il pouvait y avoir entre les deux sections, amateur et professionnel.
Tu peux le dire.
En tout cas, lui qui était... On peut peut-être lui demander s'il peut venir avec le chèque que les dirigeants...
7 000 euros. Là, je peux te dire.
Parce que les résultats 2013 sont intérinés.
Tu le reverras plus de chèque.
En tout cas, Latz qui a rendu un bon service ce week-end avec ce match nul un partout contre Narbonne.
Exact.
Contre le FU. Alors donc, on parlait de ce match extrêmement important hier au chapitre avec la réception d'une des équipes qui joue la montée, Bagnoles-Pont, victoire obligatoire et victoire à la clé sur un but de la dernière recrue, Rebelosso.
La recrue de Christian Massiello.
Voilà, exactement, à la 73e. À noter l'expulsion d'un joueur de Bagnoles à la 62e. Tu étais au match, Luc?
Oui, enfin, j'ai vu la deuxième mi-temps. Tiens, pour la petite histoire, visiblement, Rebelosso, qui était suivi par Johan Febrer quand il était à Arles-Avignon et qui voulait le faire signer à l'époque où il était là-bas. Oui, j'ai vu cette deuxième mi-temps. Que dire? Laurent, après toi, t'excuser de ma part auprès des dirigeants de l'AFL.
Le terrain,
c'est
était
compliqué bouée. De jouer sur un terrain comme ça, qui était dans un très très mauvais état. Quand on a une équipe qui est quand même relativement technique, comme l'AFL, qui est, dont le jeu quand même principal n'est pas de balancer des grands ballons devant, c'est compliqué. Ça s'est vu avec des joueurs comme Yanis Garbi, qui est un garçon qui est assez technique et qui joue beaucoup dans les petits espaces. Voilà, essayer de faire des contrôles, des râteaux, des choses comme ça sur un terrain comme ça, c'était très compliqué. Ils s'en sont sortis avec un joli but de Rebelosso. Faut dire que les gardois étaient réduits à 10 après l'excellent travail de leur avant-centre qui a respectivement ouvert Nicolas Andréo en première mi-temps et Florian Fedel qui l'a laissé un peu KO pour le compte en deuxième, donc il a pris deux jaunes. Ils ont fini à 10, ça les a pas empêchés de pousser en toute fin de match, ils auraient même pu égaliser. Leur gardien qui est allé mettre une tête qui est passée pas très très loin.
Le goal qui est monté sur corner.
Ouais, sur le dernier corner.
Et qui a Johan, pris le ballon de la tête.
Qui a pris le ballon de la tête. Alors Johan Musi, je ne sais pas s'il avait glissé ou s'il avait été bloqué.
Ouais, il était un peu dans le pâté.
Il était un petit peu. Et donc le but était vide et il l'a mise un peu en dehors des cages. Bon, c'était compliqué, mais c'est gagné, c'est l'essentiel. C'est une victoire qui a été longue à se dessiner. Mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir réussi à gagner contre cette équipe de Bagnoles-Pont et de leur mettre 4 points.
Et tu as un match en retard en plus.
Avec toujours ce match en retard.
Voilà. Et bon, ce qu'il faut signaler, une équipe de l'AFL qui a des problèmes d'effectifs aussi, avec pas mal de joueurs absents sur ce match-là et pas des moindres.
Bon,
De Freitas n'était pas là. Ouais. Almeras, bon, on sait qu'il est blessé. Tu as Barandon qui est blessé aussi, Mboup.
Qui était suspendu.
Bon, donc c'est quand même des garçons qui amènent vraiment une plus-value qu'ils sont là. Bon, on parle là de joueurs qui sont titulaires. De Freitas, Almeras, bon. C'est des gars qui sont indiscutables, donc bon.
Petite blessure ou
Almeras, c'était la blessure au genou, donc ça fait un petit moment que ça dure.
De Freitas et Mboup, c'est suspension.
Ah, voilà. C'est suspension aussi. D'accord.
Alors c'est vrai que Barandon aussi, ça fait un petit moment qu'il est blessé.
Barandon, c'est une pubalgie, donc c'est très long à soigner. Benjamin, c'est au niveau du genou, donc là c'est pareil, c'est long aussi, donc bon. Pour l'instant, on ne peut pas chiffrer leur absence.
Tu es obligé de faire jouer depuis quelques matchs, mais Massiello l'avait fait. Tu fais jouer Robert
Robert.
Qui a toujours joué attaquant ou ailier. Il jouait même, je me souviens de sa grande époque, il jouait ailier gauche. Bon, maintenant, il est obligé de jouer arrière gauche. Donc, tu es obligé quand même aussi de jongler avec ses absences.
Et Nicolas Andréo, qui est passé pour le coup en défense centrale avec
Pierre Tessier.
Il a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Il a fait une super deuxième mi-temps. Enfin, je n'ai pas vu la première mi-temps.
Oui, il a fait un bon match.
Il a sauvé quelques situations. Il a fait franchement avec son bandeau de pirate. Il a fait un très bon match.
Je viens de recevoir un SMS de Chantal qui ne comprend pas qu'on n'entende pas plus Aurélien.
Aurélien, quand tu veux, tu interviens.
Pas de souci.
Alors, au classement, Mende, premier, 38 points, 12 matchs. Narbonne, le FU, 36 points, un match de plus. Frontignan, 32 points, un match de moins. Le Fun, oui, Narbonne,
le FU, c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose, excusez-moi. Bagnoles-Pont, donc, votre grand favori, qui est quatrième avec 32 points. Et un match de plus, qui est déjà relégué. Oui, monsieur Patrick Bioncon, vous disiez ça la dernière émission.
Bagnoles-Pont, non, ça m'étonnerait que j'ai dit ça, mais.
Oh là là, c'est pas le grand favori, mais c'était.
Je pense pas que ce soit moi.
Ça et Aigues-Mortes.
Non, j'ai dit plutôt Frontignan, moi.
C'est un des candidats, c'est quand même, malgré tout, un des candidats à la montée. Il y avait, ils ont fait rentrer Mathias Verschav, l'ancien pro de Nîmes Olympique.
Non, mais c'est vrai que c'est, voilà. On parle de Bagnoles-Pont.
Et d'ailleurs, il y a. Avec un sac de ciment autour du ventre.
Non, mais il y a un ancien pro que je connais bien, et qui a joué ce match, c'est Cédric Liabeuf. Parce que bon, il est né dans le village qui est à 10 km de là, mon village à moi. Et donc, il a eu une carrière professionnelle en Ligue 2 à Guingamp, plein de clubs. Et donc, il joue à Colmar en national quand Colmar ne l'a pas gardé. Et donc, il est revenu dans son village natal. Et donc, pendant 6 mois, il a joué à l'Olympique Barbantan, mon club. On était à l'époque en DH1, et donc après ces 6 mois-là, il a été recruté par Beaucaire, qui à l'époque, Uzès, qui à l'époque était en national, et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Bagnoles-Pont, parce que l'entraîneur de Bagnoles-Pont, c'est l'ancien entraîneur d'Uzès, donc quand il est parti d'Uzès, il a pris dans ses bagages Liabeuf et d'autres joueurs.
Samuel Cruz, ouais, qui est l'ancien entraîneur, qui avait fait monter, Uzès, voilà. De CFA2 ou même bon, de DH.
Non,
DH,
un gars comme Cédric Liabeuf, il a 200 matchs en Ligue 2.
Oui, Mathias Verschav, qui est un très bon attaquant quand il joue en Ligue 2.
C'est parti de l'épopée.
C'est des gars qui ont eu des carrières au pro vraiment intéressantes.
Je te confirme, pour avoir vu jouer à Nîmes Olympique, Mathias Verschav, il a pris effectivement un petit peu de. Il a pris du poids dans le. Dans l'effectif.
Il va falloir vous excuser, les gars, la semaine prochaine.
C'est Laurent qui s'excuse. Hein,
c'est contre qui le match en retard
Frontignan.
Frontignan, justement.
C'est ce dimanche, match en retard, Frontignan, Mende, match sommet, le choc. Donc, si tu perds pas Frontignan, c'est le dernier match de la phase aller. Donc, si tu perds pas, tu seras premier.
C'est à Frontignan
après. Oui, c'est à Frontignan.
Voire même si tu gagnes.
Voilà, bon, c'est vrai que si tu gagnes, c'est encore mieux, bien évidemment. Mais bon, un match dur, je passe à Laurent, on signe de suite.
Hein. Oui, on le prendrait.
Donc, bon, voilà, c'est le dernier match, aller. Et donc, choc au sommet, ouais. Frontignan.
Ce dimanche, on en parlera donc, du coup,
le match de Coupe de la Région est bien sûr reporté à une date ultérieure. C'était contre la Grande Motte à domicile.
D'accord. À mi-saison, on peut dire Narbonne et Frontignan, les deux principaux dangers.
Je pense qu'il y a Perpignan aussi.
T'as Perpignan aussi, qui est pas loin.
Bon, qui s'est fait accrocher aussi là,
sur ce terrain. Il y a deux matchs nuls contre Carcassonne.
Voilà.
Carcassonne, qui est septième.
Frontignan a deux matchs de retard.
Un contre
la FL et un autre derrière.
Voilà. Donc c'est vrai que Frontignan apparaît vraiment le rival numéro 1, mais il y en a d'autres, c'est clair.
Allez, on accélère. La réserve de la FL obtient le match nul à Roche-Signargues, un but partout.
Rochefort-Dugard.
Défaite de Badarou 4-2 contre Redressant. Score inversé pour Marvejol qui gagne 4-2 contre Anduze. But de Cartaillac 18e, Diallo 24e, 95e et Nakouille 59e.
Pardon.
Pourquoi tu ris
Qui est le dernier buteur?
Nakouille.
D'accord.
C'est ça.
Et du coup, au classement, ils sont combien, Marvejol?
Second.
Ils sont seconds à 35 points derrière la réserve de 7 qui a 36 et devant la réserve de Béziers qui a 35 également. Ça sent bon quand même. Hein.
Semaine exceptionnelle pour Marvejol parce qu'ils avaient un match en retard dimanche dernier. Donc le 3 janvier, ils reçoivent Petit Bar et ils gagnent 4-2. Le mercredi, ils vont à Nîmes en Coupe Gare-Lozère. Ils se qualifient 2-0. Et donc ce dimanche, ils reçoivent encore Anduze et ils regagnent 4-2, donc 3 victoires dans la semaine.
10 buts en 3 matchs.
10 buts marqués, d'ailleurs c'est la meilleure attaque de la DHR.
C'est impressionnant.
Bon, parcours vraiment extraordinaire de Marvejol.
C'est impressionnant parce qu'il se rajoute des buteurs, parce que Nakouille, ça fait deux matchs qui plantent. Alors
pardon,
qui je ne me souviens pas qu'il est planté en début de saison.
C'est vrai. C'est vrai.
Laurent, tu vas encore devoir t'excuser la semaine prochaine.
La semaine prochaine,
cette émission sera uniquement consacrée aux excuses de Laurent.
Non, mais il faut souligner cette performance de Marvejol. C'est fabuleux ce qu'ils font.
Pour un club qui a hésité à s'inscrire et à partir en championnat. Un championnat de DHR pour cause des soucis financiers de la ville. Franchement,
Être second, il faut une super saison. En plus, derrière une réserve, donc on sait toute la difficulté de ces réserves.
De CFA, parce que certes, CFA.
Non, il fait une super saison.
Ok, allez, on finit avant la pause musicale avec l'ONL en Coupe Gambardella qui recevait le Gazélec d'Ajaccio, défaite 6-0.
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué.
Gazélec
d'Ajaccio, Ligue 1 quand même. Donc
avec
c'est les jeunes,
notamment un joueur, leur avançante qui marque 4 buts, qui a fait quelques apparitions sur le. Sur le banc de l'équipe de Ligue 1, donc voilà, on est à un niveau.
Oui, mais c'était donc du coup une belle fête du côté de Saint-Chély ce samedi. J'ai vu quelques vidéos avec beaucoup de monde autour du stade, donc c'est bien pour les jeunes joueurs de Nord-Lozère, et puis ça encourage le club à continuer sa formation, son travail.
C'est très très bien. Hein.
Comment il s'appelle le buteur qui marque 4 buts?
Je me souviens plus son nom. On va
le chercher aussi. Allez, une pause musicale. Aurélien, qui c'est que tu aimerais écouter pendant cette pause musicale?
Aujourd'hui, on va écouter du David Bowie. Je pense que c'est des circonstances.
J'aurais préféré Michel Delpech.
Allez.
Ah oui.
Prochaine fois. Like dolphins can swim. On arrête Crespon. David Bowie, allez, un hommage demain soir, mardi, à David Bowie avec un Rock'n'Roll Diaries de 2012 qui lui était consacré. Je sais pas si tu t'en rappelles, Luc.
Oui, je me rappelle la première intervention de Dave à l'antenne.
Voilà, c'est ça. Et donc, il sera rediffusé demain soir à 21h sur 48 FM.
Oui, pour ceux qui... Tu as pas mis tes chaussures rouges, c'est dommage. Parce que,
c'est vrai. Ouais. Je les avais pas mis ce matin.
Les connaisseurs comprendront ce que je veux dire.
Et donc, pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est juste pour vous signaler que David Bowie est décédé ce lundi matin.
Voilà, oui, parce que peut-être que les gens sont pas
peut-être
au courant.
Peut-être que les gens sont pas au courant.
Tu as raison. L'actualité nationale et internationale, on va commencer à parler volleyball avec l'équipe de France qui va devoir faire un petit crochet par l'Asie pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio après sa défaite hier contre la Russie 3-7-1. Donc Patrick, je sais que tu suis avec attention cette équipe de France, presque un sans faute, mais non.
On a vu samedi une demi-finale face à la Pologne. Un match de toute beauté, deux équipes vraiment énormes. Alors avec un enjeu supplémentaire, ouais. Puisque les deux entraîneurs polonais sont français, donc ça a ajouté un piment supplémentaire, et en plus N'Gapet a une haine envers Antigua énorme, donc bon, ça a ajouté un plus de tension. Alors 29-27, 32-30 les deux premiers sets, donc t'imagines, ça c'est, et d'ailleurs pour ceux qui sont contre la vidéo, s'il n'y a pas la vidéo, le premier set va à la Pologne, parce qu'il y a une balle de set pour la Pologne. L'arbitre compte le ballon bon. Bien sûr, la France immédiatement demande la vidéo. On se rend compte que le ballon était sorti. Donc, point pour la France, ça redevient égalité. Et quelques instants après, c'est un gagnant le premier set. Donc, toute l'utilité de la vidéo pour justement ne pas fausser les scores. Après, en finale, tu perds contre la Russie. La Russie qui, au premier set, prend une mine. Et l'entraîneur russe se rend compte qu'il y a trois joueurs. Donc, trois joueurs sur six, hein, ou sept, si tu comptes les libéraux. Donc, c'est la moitié de l'équipe russe qui était vraiment dans le coma. Mais il sort les trois joueurs. Il fait pas de détails. Il en met trois autres. Et ce sont les trois autres qui font un match d'enfer et qui permettent de gagner. Et toi, la France, tu n'as pas ce banc. C'est-à-dire que quand tu fais rentrer quelqu'un, mais il y a vraiment un écart énorme de niveau entre les titulaires et les remplaçants, alors que les Russes, ils ont 10 joueurs qui sont du même niveau et du top niveau.
Bah, ça avait déjà été le problème soulevé lors de l'Euro, hein, c'est ouais. Que c'est quasiment les 7-8 joueurs, plus le libéro, qui ont fait, je crois qu'ils sont 15 sur la feuille de match, qui ont fait le tournoi, donc bon...
C'est un match en 6 jours, c'est sûr que c'est compliqué physiquement.
C'est compliqué, surtout face à des machines comme les Russes qui sont... Et qui ont, je pense, en plus été vexés de la fessée reçue et lors du premier match et lors du premier set. Alors après, est-ce que on sait que cette équipe, on lui reproche, et notamment ses adversaires, on lui reproche beaucoup cette équipe de France, son côté un peu chambreur et un petit peu hautain parfois. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas payé quelque part pêché un peu par là ?
C'est
ils
possible.
Ils auront TQO mondial pour se qualifier. Il faudrait être dans les 4. Premier sur 8 équipes, c'est jouable.
C'est jouable quand même.
C'est jouable, mais bon, sur les 4 qualifiés, il y aura obligatoirement un pays asiatique, donc en fait, ça fait plus que 3 places. Mais bon, c'est vrai que les adversaires que tu vas affronter au mois de mai ne sont absolument pas de la même valeur que ceux que tu as affrontés là, cette semaine. Ah, bon, puisque tous les pays européens sont quasiment éliminés, sauf toi, la France et la Pologne. Donc, du coup, après, tu vas te jouer contre des pays d'autres continents. Et, bien sûr, ça sera pas le même niveau.
C'est gagné, alors. On peut le dire.
C'est pas gagné.
Mais comme tu n'as pas de remplaçant, si une semaine avant, tu as N'Gapet qui se fait un claquage, s'il joue pas,
rien n'est jamais gagné.
Oui, voilà, ça changera tout. Mais si tu as ton équipe type en forme, comme ils étaient là en début de semaine, tu vas passer.
Oui, mais même, c'est quoi? Tu es en train de nous expliquer que ça sera le Qatar, la Jamaïque, des pays
non,
comme ça?
Non, ça sera peut-être le Venezuela, ou le Canada.
Il n'y a pas un seul gymnase au Venezuela.
Voilà, la Corée du Sud.
Le Japon, mais qui sont de bonnes équipes. La Corée du Sud est une bonne équipe aussi.
Sato.
Faut pas se leurrer, ça va pas.
Mais bon, ça sera pas du niveau, c'est sûr, de la Bulgarie, que la Bulgarie est éliminée des JO. La Serbie, qui sont des pays énormes de volleyball, eux sont déjà éliminés.
Pourquoi ils sont éliminés? Ils ont pas une autre chance.
Il fallait être dans les trois premiers de ce TQO européen.
Ah oui, d'accord.
J'ai terminé. L'Allemagne-Pologne, c'était le match à la troisième place. Dans le quatrième set, l'Allemagne a une balle de match. Il rate la balle de match. Finalement, ils perdent. Mais du coup, l'Allemagne n'ira pas aux JO. T'en comptes, ça se joue sur
un ballon.
Voilà.
Et ouais.
Comme le MVL l'année dernière, c'est ça. Pratiquement.
Exactement.
C'est ça. Football, le 60e ballon d'or va être décerné ce soir à Zurich à partir de 18h30. Patrick, un cinquième ballon d'or pour Messi?
Bon, je pense, même si je le dis chaque fois, mais je suis plutôt Cristiano Ronaldo, qui a toujours
c'est
été
qui
plus
le troisième
réel, qui a toujours été plus réel, c'est Neymar.
Neymar, on avait fait des paris la dernière fois d'ailleurs.
Que Barcelone, mais bon, je pense que c'est Messi qui va l'avoir.
Tu disais Neuer, toi. Ouais, ça devient un peu nul, hein, je trouve, ce ballon d'or, non?
C'est toujours les mêmes, c'est sûr. Hein. Mais bon, il domine, il faut reconnaître.
C'est la seule question sur le troisième, en fait. Voilà. Qui va finir troisième? Ouais.
C'est vrai, si c'est les deux meilleurs joueurs du monde, c'est un petit peu normal, quoi.
Oui,
sur la chaque fois.
Iniesta le méritait quand même la saison dernière. Bon, il a pas eu parce que bon, voilà, il y a eu peut-être des trucs compliqués à comprendre, mais bon, là cette année, je vois pas.
Blatter qui s'occupait des.
Neymar ne peut pas rivaliser avec.
Tu vas encore t'excuser.
Excuse-moi.
Et ouais, on va pas parler du ballon d'or africain, mais
Oh, il y a eu grosse polémique de la part de
Touré,
Yaya Touré,
et même André Ayou, a été un peu plus soft, mais quand même a mis sa petite pique.
Ils sont quand même mauvais perdants parce que Aubameyang, quand même, c'est un super joueur.
Pas à tort de la Coupe d'Afrique des Nations, disant c'est pas normal. Mais voilà, ça c'est le nouveau mode de scrutin, comme pour le ballon d'or, où c'est pas par rapport aux résultats, c'est par rapport à la qualité du joueur. Voilà. Bien que cette année, Barcelone ayant gagné la Ligue des Champions, c'est compliqué.
Ceci dit, pour ajouter à l'émission spéciale de la semaine prochaine où Laurent va s'excuser pour tout le monde, depuis que c'est géré par la FIFA, puisqu'avant c'était France Football qui s'occupait du ballon d'or, je trouve qu'il y avait quand même, quand même beaucoup moins contesté que ces dernières années. Quand même.
Et d'ailleurs, le plus gros problème de la FIFA pour ce soir, c'est de trouver un dirigeant qui n'est pas une affaire
de corruption
judiciaire au cul pour qu'il puisse remettre quand même ce trophée sans que ça provoque.
Ils
sont en train de chercher, mais je ne sais pas si c'est de trouver, mais c'est compliqué.
Le concierge du bâtiment de la FIFA qui a dit
il fait rien, lui. Ouais, d'accord. Il n'est pas inquiété.
Allez, c'est l'heure, mais on va se dépêcher. Trois dernières infos. On a parlé de 5 ballons d'or, 5 buts contre la Corogne avec une manita pour Zidane. Un bon début, Patrick.
Un bon début, mais. Tu m'avais interrogé sur Rémi Garde à Aston Villa, je t'avais dit que ce serait un flop. Bon, on s'y dirige tout droit. Et je suis pas persuadé que Zidane soit vraiment l'homme idéal. Alors peut-être oui, peut-être dans le fait que bon, c'est les stars qui vont un peu gérer tout ça et qui va bien sûr pas les contrarier. Il a commencé déjà, Ronaldo c'est le meilleur, etc., etc., ceux qui veulent l'entendre. Après, on va voir en Ligue des Champions, c'est là où vraiment on verra les grosses trucs. Mais je suis pas persuadé que ce soit vraiment un succès énorme. Zidane entraîneur.
En même temps, le Real, il gagne 80% de leurs matchs en Liga de 4 buts ou 5 buts d'écart. Donc, j'ai pas l'expression que ce soit 5-0 si exceptionnel que ça. Après, l'adversaire, je sais pas si vraiment.
C'est pas tellement le résultat qui est un jeu qui est demandé par les supporters. C'est plutôt la manière où l'équipe montre de l'envie, va de l'avant et ça joue. Alors qu'avec Benitez, c'était prudent, un défenseur de plus.
Donc là, c'est plus offensif.
Là, c'est plus offensif. Après, le résultat, au final, est peut-être le même, ou sera peut-être le même.
Mais c'est vrai que.
Mais ce qu'il demande, c'est de la vie. C'est un peu ce que Patrick disait de Bielsa l'année dernière. Ouais. Il aimait parce qu'il y avait du jeu, du offensif, peu de folie. C'est ce qu'attendent les supporters du Real et qu'ils ont eu.
Ça n'a aussi de la folie avec l'OM, non?
Mais il s'est mis la pression parce qu'il a dit qu'il voulait gagner la Ligue des Champions. Bon. Est-ce que le Real est en mesure de gagner la Ligue des Champions cette année?
J'en suis
pas sûr.
C'est ambitieux.
J'en suis pas sûr. Luc, t'avais une info?
Oui, j'avais une info. C'est la victoire en championnat de France de cyclo-cross à Besançon de Pasquin van der Mouten, la jeune lausérienne licenciée au team VTT Lausère. Il me semble-t-il, c'est le team VTT, oui, qui a donc remporté le titre en cadet, catégorie cadette, à Besançon, de championne de France de cyclocross.
Ça, c'est bien. Pesquin?
Pesquin van der Mouten.
Pesquin, c'est son prénom. D'accord. Et son prénom. L'invite, elle est surmonde? Et non.
Je pense. Mais ça va être compliqué parce que cadette, je pense qu'elle a école.
Eh bien, on lui ferait un mot. Aurélien, tu savais faire les mots, toi, tu les faisais.
Ouais, c'est ça. Tu sais imiter les signatures aussi.
Ah ben voilà, parfait. Dernière grosse info, victoire hier de Portland contre Oklahoma City, 115-110. Portland qui se rapproche des playoffs, Laurent.
Voilà, Portland qui est remonté à la 10e place, à quelques pourcentages de la 8e place. Portland qui a failli battre les Golden State.
State.
Avec une défaite, je crois, de 10-15 points, pas plus.
Ce qui est bien parce que bon, les autres sont quand même à un niveau.
Failli seulement.
Failli, ouais. Ouais, mais enfin, bon, peut-être qu'on s'attendait à une très grosse rouste aussi. Hein.
Non, c'est vrai que Portland, il remonte bien, il faut une belle petite saison. Ça va être compliqué d'accrocher les playoffs. Hein,
non, c'est pas compliqué, c'est impossible. Il y a que Laurent qui y croit.
À l'Ouest, ça va être compliqué.
Non, mais c'est une saison de transition, là. Et on verra l'année prochaine. On commence à préparer la saison.
Ce qui est bien, c'est que maintenant, au moins. Laurent sait qui est Damien Lillard, donc le meilleur joueur des
Damien Lillard et donc qui joue à Rip City voilà, pour les matchs à domicile. Et donc voilà, je m'intéresse maintenant à Portland.
Portland qui envoie des push, tu sais, les push, c'est ouais. Les actualités sur les portables. Avant, voilà. Dans Lozère, Laurent Chenin, ils ouais. Hallucinent, ils disent
qu'on a une supporter. Who's that guy?
What's that guy? Hey, I'm the stand. Yeah. Allez, salut à tous,
à bientôt.
Lundi prochain pour une émission.
Au revoir.
Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas de apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez lui. Allez mon petit bonhomme. Oui mon petit bonhomme. Bravo. Bravo. On est tout seul.
FM, la radio pop rock de la Lozère.
La radio pop rock de la Lozère.